Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Nous avons mis au point un test dans un temps record qui permet en France, en réalité, de diagnostiquer très rapidement dans la journée tous les malades potentiels.
La majeure partie des hôpitaux de France bientôt équipés pour détecter le coronavirus apparu en Chine, alors que Pékin prend des mesures drastiques, 18 millions d'habitants coupés du monde.
Et les festivités du Nouvel An chinois, tout simplement annulées.
Est-ce le dernier barreau d'honneur? Retour des perturbations dans les transports. Demain, la réforme des retraites présentée en Conseil des ministres.
Dans ce journal également, la décrue dans les Pyrénées-Orientales.
Et le monde entier à Yad Vashem pour commémorer la Shoah.
Nous ne laisserons pas faire. Car la promesse de la France est bien une promesse de souvenir et d'action.
Emmanuel Macron et une quarantaine de chefs d'État.
Et est-ce une forme d'aveu? Michel Fournier demande à être considéré comme coupable dans l'affaire Estelle Mouzin.
Enfin, le naufrage du tennis français, 18 au départ, un seul au troisième tour de l'Open d'Australie. Gaël Monfils.
Si les résultats, pour l'instant, sont moins à la hauteur de notre grande nation du tennis, je pense que quand même dans un futur très proche, ça sera de nouveau au top.
La bourse de Paris termine en baisse ce soir de 0,65% à 5971 points.
Bonsoir Anissa, la couleur du ciel demain?
Alors demain, l'Aude, toujours placée en vigilance rouge, crue inondation, vigilance avalanche qui est levée sur les Pyrénées-Orientales. Et demain, bonne nouvelle sur ces deux départements, le temps sera sec, il y aura de la pluie ailleurs. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Mais d'abord donc cet entretien que Ségolène Royal vous a accordé, Nathalie, à la veille d'un conseil des ministres qui va la démettre demain de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Ségolène Royal ne cache plus ses intentions si elle ne prononce pas le mot candidature. En fait, c'est tout comme, elle vise la présidentielle.
On m'a sommé de choisir entre cette mission et ma liberté de parole. Je choisis ma liberté de parole parce que je pense que c'est bon qu'il y ait un débat démocratique et surtout qu'on construise une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Parce que quand on nous dit qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir, ça sera juste ce choix, eh bien je pense que c'est grave pour la démocratie. Maintenant, vous savez, je le fais avec beaucoup de modestie parce que je sais aussi ce que ça représente comme prise de risque, comme exposition, comme coût à prendre. J'en ai l'expérience. Mais je ne peux pas ne pas bouger. Parce que si on a ce choix en 2022, je me dirais à moi-même, mais pourquoi tu t'es pas bougé?
Ségolène Royal qui ne cache plus ses intentions, vous l'avez compris. Entretien à suivre dans son intégralité, juste après votre journal, Sébastien.
Le cas royal, donc au Conseil des ministres, mais pas seulement demain, puisque le gros morceau sera la présentation de la réforme des retraites qui tient en deux textes de loi qui seront ensuite envoyés à l'Assemblée. Premier débat mi-février.
De nouvelles actions des syndicats sont organisées dans le même temps, encore ce soir, là, avec des marches au flambeau dans plusieurs villes. Et cela avant une nouvelle journée de mobilisation nationale demain. Ce sera d'ailleurs la 7e.
Alors, est-ce un barreau d'honneur? On verra l'ampleur des manifestations dans la rue. En tout cas, c'est le retour des perturbations dans les transports, Maud Descamps.
Oui, alors ce sera plutôt à la RATP. Hein. 12 lignes de métro très fortement perturbées. Par exemple, sur la ligne 13, il n'y aura qu'un train sur 4. À la SNCF, en revanche, le trafic sera normal pour les TGV, Ouigo, Thalys et Eurostar. Et il y aura 7 TER sur 10 en circulation. Alors, il y aura quand même certains secteurs fortement perturbés, notamment dans les crèches. Certaines seront fermées, d'autres en horaires réduits. Même chose dans les cantines, hein, notamment chez les personnels Sodexo. Les enseignants devraient également suivre le mouvement. Le SNES-FSU, un premier syndicat chez les enseignants, s'attend à une grosse mobilisation. Même chose dans le secteur de l'énergie, avec des blocages dans toutes les centrales EDF. D'autres coupures sauvages d'électricité sont également à attendre, a prévenu la CGT. Et il y aura aussi une nouvelle opération port mort, organisée par la CGT des ports et des docks.
Les informations ce soir de Maud Descamps du service économie d'Europe 1 et toutes les prévisions en détail bien sûr sur europe1.fr.
Et cette réforme des retraites avec ce conseil des ministres attendu demain, on en reparle avec les grandes voix 18h30. Venons-en maintenant au coronavirus qui préoccupe bien au-delà des frontières de la Chine.
Oui, là-bas, des mesures drastiques ont été prises pour isoler des millions d'habitants. On va y venir dans un instant. D'abord en France, sans attendre les conclusions de l'Organisation mondiale de la santé qui est à nouveau réunie ce soir, le gouvernement vient d'annoncer avoir mis au point un test permettant un diagnostic rapide. Écoutez la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Nous sommes d'ores et déjà d'abord en mesure d'avoir un diagnostic très rapide. Le Centre national de référence des coronavirus à l'Institut Pasteur et d'ici demain un centre à Lyon seront en mesure de faire un test diagnostic rapide en quelques heures. Et d'ici la semaine prochaine, la majorité des hôpitaux, des grands hôpitaux français, sera en mesure d'effectuer le test. Il a fallu mettre au point un test spécifique puisqu'il s'agit d'un nouveau virus. Nous avons mis au point un test dans un temps record qui permet en France, en réalité, de diagnostiquer très rapidement dans la journée tous les malades potentiels.
Agnès Buzyn avec Jean-Jacques Herry. Une dernière information ce soir concernant la Chine.
La Chine qui annonce donc le premier décès hors du berceau de l'épidémie. Ce berceau de l'épidémie, c'est Wuhan qui est désormais coupé du monde, de même que la ville voisine. Imaginez 18 millions d'habitants coincés, c'est plus que l'Île-de-France, plus un transport en commun, pas de train, pas d'avion, péage autoroutier fermé, interdit de voyager en plein nouvel an chinois. Et dans la capitale à Pékin, la cité interdite a été fermée, toutes les festivités sont annulées. Reportage de notre correspondant Sébastien Lebelzik.
Voilà le genre de musique que l'on n'entendra pas cette année dans les parcs de Pékin. La danse du dragon, les marchés traditionnels, les feux d'artifice. Tout cela est annulé en raison de l'épidémie qui continue de se propager en Chine. Une mauvaise nouvelle pour cette famille pékinoise.
On n'a pas le choix, on doit rester à la maison. De toute façon, ce n'est pas très raisonnable de sortir en ce moment.
Est-ce que du coup, vous avez peur de sortir ?
C'est pas vraiment de la peur, mais il faut être sérieux pour soi-même, mais aussi pour les autres.
Alors que la moitié des provinces chinoises sont touchées par l'épidémie, beaucoup de familles vont rester chez elles demain soir pour le nouvel an. Et c'est à la télévision qu'ils suivront l'entrée dans l'année du rat. Le spectacle diffusé chaque année par la télévision d'État CCTV devrait du coup battre demain soir tous les records d'audience. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Il est 18h06 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Forme de soulagement ce soir dans le sud-ouest après le passage de la tempête Gloria. Les dégâts sont bien moins importants que ceux que l'on pouvait craindre.
La décrue est amorcée, la vigilance rouge est toutefois maintenue sur le département de l'Aude, mais levée sur les Pyrénées-Orientales où plus d'un millier d'habitants ont dû quitter leur maison la nuit dernière. Écoutez Thierry qui a pu rentrer chez lui aujourd'hui. Pas de dégâts dans sa maison, mais une grosse lassitude. C'est la troisième alerte aux inondations en 3 ans.
On ne peut rien faire de spécial pour éviter ça, quoi. On fait avec, mais bon, on compte quand même partir bientôt, quoi, d'ici, pour changer un peu de quartier. C'est vrai qu'un peu tous les ans, ça commence un peu, ça devient un peu critique. Hein. À force des constructions qu'il y a autour et tout, c'est vrai que l'eau, elle a du mal à s'écouler, à force. Hein. Ça construit. Au début, c'est inondable. Après, c'est plus inondable. Pourquoi et comment, alors qu'il n'y a rien qu'à changer. Et là, ça craint de plus en plus, quoi. Il y a beaucoup plus de ruissellement, quoi.
Puis des journées comme ça, c'est fatigant.
Ouais, c'est crevant. Ouais. Surtout qu'on sait que bon, si la maison en prend l'eau, après la maison est foutue, entre guillemets. Les placos, tous ces trucs-là. Après, c'est dur à vendre. Vaut mieux partir avant, ouais.
Un témoignage recueilli par notre correspondant en Occitanie, Benjamin Peter. Et ce soir, c'est l'île de la Réunion qui est placée en alerte cyclonique orange avec des pluies intenses et une forte houle attendue la nuit prochaine.
Europe 1.
Le grand journal du soir sur Europe 1. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
40 chefs d'État réunis pour se souvenir les 75 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau et la question de l'Iran qui s'invite dans les discours. C'est à suivre dans votre journal de 18h. On sera donc en Israël.
Et puis Michel Fourniret dit vouloir être considéré comme coupable dans l'affaire Estelle Mouzin.
2 heures d'info, c'est votre grand journal du soir, tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Unis dans le souvenir, 75 ans après la libération d'Auschwitz, le monde s'est recueilli au mémorial de la Shoah à Yad Vashem, en Israël.
Ouais, c'est le rassemblement le plus important de l'histoire du pays. Une quarantaine de dirigeants présents, dont Vladimir Poutine, le vice-président américain Mike Pence, le prince Charles d'Angleterre, ou encore Emmanuel Macron, un front commun contre l'antisémitisme. Adrien Beck avec un message répété, hein, vous êtes sur place, ne jamais oublier.
Oui, tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune l'ont répété. Le message est unanime. À Yad Vashem, il s'agissait donc de commémorer le passé, la Shoah, mais aussi de faire le lien avec le présent, la lutte contre l'antisémitisme qui remonte en France, a dit Emmanuel Macron.
Nous ne laisserons pas faire, car la promesse de la France est bien une promesse de souvenir et d'action. Zahor al-Tishkar, souviens-toi.
Mais en parallèle, le front uni s'est craquelé avec le message très politique de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui a dénoncé dans son discours les tyrans de Téhéran, l'Iran qui fait selon lui courir le risque d'une autre Shoah. Face à cela, Israël doit rester ferme, a appuyé le vice-président américain Mike Pence, des propos pointés en filigrane par Emmanuel Macron.
Nul n'a le droit de convoquer ces morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines. Car tous ceux qui sont tombés nous obligent.
Emmanuel Macron qui, dans le même temps, a assuré hier que la France sera intraitable sur le nucléaire iranien, tout en assurant vouloir éviter une escalade militaire dans la région. quelle qu'elle soit.
Adrien Beck en ligne de Jérusalem pour Europe 1. Le porte-avions Charles de Gaulle a pris la mer pour 3 mois. Il rejoint l'est de la Méditerranée pour combattre les derniers foyers de Daesh. Les marins ont reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe qui a passé la nuit dernière à bord.
Et on en vient maintenant à ces nouveaux éléments dans la quête sur la disparition d'Estelle Mouzin. On vous le rappelle, c'était en 2003. Michel Fourniret demande désormais être considéré comme coupable.
Alors, est-ce une forme d'aveu ? L'ombre du tueur en série plane plus que jamais dans ce dossier. Depuis que son alibi a été fragilisé par son ex-épouse, Monique Olivier, qui sera d'ailleurs à nouveau interrogée demain. Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Michel Fourniret a eu ses propos face à la juge fin novembre.
Oui, et lors de cet interrogatoire, une dizaine de pages que nous avons pu consulter, le tueur en série livre dès sa première réponse une formule ambiguë dont il a le secret. « Ma mémoire fiche le camp, mais je ne suis pas complètement sûr de n'y être pour rien. » C'est typiquement du Michel Fourniret dans le texte. Même si on sait qu'il est atteint de réels troubles de la mémoire, « elle me fait défaut », dit-il à 77 ans. « Ce n'est pas drôle de vieillir, les neurones, ils foutent le camp », ajoute l'ogre des Ardennes. Loin d'être dupe, la juge Sabine Kéris lui glisse « on a l'impression que vous faites le tri dans vos souvenirs ». Absolument pas, rétorque Fourniret, je joue franc jeu avec vous. Néanmoins, tout au long de cet interrogatoire de première comparution, le tueur en série n'est jamais catégorique. Il multiplie les réponses de Normand, comme il le dit lui-même, possible que oui, possible que non. Il répète face à la photo d'Estelle Mouzin que rien ne fait tilt et que s'il était pour quelque chose dans sa disparition, ça ne lui ferait rien de l'avouer, mais qu'il n'en a pas souvenance. Sa dernière réponse se conclut ainsi, je le cite, « Dans l'impossibilité où je suis de vous dire oui, je suis responsable de sa disparition, je vous exhorte à me considérer comme coupable, à me traiter comme coupable. » En résumé, sans jamais rien avouer, Fourniret se place lui-même en coupable présumé.
Les informations ce soir de Guillaume Bier avec Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Les sports maintenant, on va filer du côté de Melbourne où c'est franchement la catastrophe. Les Français... Que nous font-ils ?
Oui, c'est pas brillant. Ils étaient 18 au départ. Il n'en reste plus qu'un, Gaël Monfils, le seul à aller au troisième tour. Bonsoir Corinne Boulou. Chez les femmes, c'est simple, il n'y a plus personne.
Oui, effectivement. Alors si le tennis féminin français avait terminé l'année sur une bonne note, pleine de promesses avec cette victoire en finale de Fed Cup, eh bien il commence l'année sur une fausse note. Pas une Française au troisième tour après l'élimination d'Alizé Cornet ce matin. C'est du jamais vu depuis 1985 et cela devient une mauvaise habitude en grand chelem. Gaël Monfils, désormais unique représentant tricolore à Melbourne, après les éliminations de Pierre Gerbert et Gilles Simon, n'est même plus étonné d'avoir à expliquer à notre correspondant Georges Homsy cette faillite tricolore en grand chelem.
J'ai l'impression qu'à chaque grand chelem, j'ai cette question. De leur tomber dessus à chaque fois, c'est dur. Parce qu'on travaille tous, on essaie de faire le maximum. Il y a les jeunes qui arrivent, alors on a envie forcément qu'ils arrivent un peu plus vite. C'est pas facile. Si les résultats, pour l'instant, sont moins à la hauteur, on va dire, de notre grande nation du tennis, je pense que quand même, dans un futur très proche, elle sera de nouveau au top.
Gaël Monfils, 33 ans et 10e mondial, affrontera samedi l'étonnant letton Ernest Gulbis. Il faut remonter à 2005 pour voir un seul Français présent au troisième tour.
Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1, Gaël Monfils qui affrontera au troisième tour le letton Ernest Gulbis. Et puis chez les favoris, Zverev, Medvedev, Tim, Alep, Pliskova, tous poursuivent leur route dans cet Open d'Australie.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Enfin, restez remarqués parce qu'on est ravis ce soir.
Ah oui, on
et
est ravis.
On tenait à vous le faire partager, vous auditeurs, parce qu'Europe 1 a reçu aujourd'hui le Grand Prix, oui, le Grand Prix de la Radio Généraliste Nationale de l'année, prix remis par un jury de professionnels réunis au Salon de la Radio et de l'Audio Digital qui se tient en ce moment à la Halle de la Villette à Paris. Et on est d'autant plus ravis en voyant les critères retenus. Écoutez bien, l'innovation, la créativité des programmes, le ton, la personnalité, l'originalité de la présence sur les réseaux sociaux. En clair, le monde qui change, voilà, qu'on écoute ensemble chaque jour sur Europe 1. Alors merci, merci à vous pour votre fidélité. Merci, on continue, n'est-ce pas ?
Ah oui, on continue.
Bah, c'est parti, on y va.
Alors, voilà. Merci Sébastien. Donc retour de l'info, 18h30 avec vous et Anissa. Du côté du ciel, ça s'améliore légèrement dans le sud.
Ça s'améliore effectivement. Nos auditeurs des Pyrénées-Orientales et de l'Aude soufflent enfin, puisque demain c'est une journée sans pluie qui est prévue. Donc une journée au sec. Alors attention, le département de l'Aude reste toujours en vigilance rouge, crue, inondation, et les Pyrénées-Orientales en vigilance orange. Alors vous le disiez, Nathalie, une légère amélioration dans le sud, mais attention, pas dans le sud-est. Demain, tout le long de la Méditerranée, du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur et en Corse, demain, il pleut. Sur l'Hérault et le Gard, les pluies seront
moins soutenu que ces derniers jours. Quelques petites gouttes sont même attendues jusqu'en Auvergne. Sur les Alpes, c'est de la neige à partir de 1500 mètres. À l'ouest, sur les Pays de la Loire et les Charentes, là, les pluies de la matinée vont laisser place à un ciel bien chargé l'après-midi. Et puis sur tout le reste du pays, hein, si je n'ai pas cité votre région, du nord au Cotentin, en passant par la région parisienne, le ciel est nuageux mais le temps reste sec. Et puis sur le quart est, c'est là qu'il fera le plus beau demain en Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Val-de-Saône. Les températures toujours fraîches, moins 4 à 10 degrés demain matin.